française en Corée.
Annyeonghaseyo, Héloïse, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Comment allez-vous?
Ça va.
On est très content de t'accueillir chaque semaine.
Ça y est, c'est l'été, moi je suis très très contente aussi.
Ah oui, moi aussi.
Tu n'es pas quand même frileuse?
Un petit peu.
Tu préfères l'été?
Je préfère l'été, mais je ne suis pas encore très très bronzée, donc on va essayer de rattraper ça dans pas très longtemps.
Donc on y va?
Oui. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé de l'importance des études en Corée, vous vous rappelez?
Bien sûr.
Donc, j'ai choisi comme sujet le système éducatif coréen et j'ai débuté mon propos par l'école primaire qui est donc la première étape pour l'accès à l'université. Aujourd'hui, nous allons continuer sur ce sujet et je vous propose de voir comment cela se passe dans le secondaire, donc au collège et au lycée, et plus particulièrement après les cours. Alors, pour aller très très vite, on rentre au collège à 13 ans. La première année du collège correspond en fait à notre cinquième. Donc on trouve encore des écoles non mixtes. Et dans presque tous les établissements, on porte un uniforme choisi par l'école. Donc un professeur japonais me disait qu'au Japon, en fait, ce sont les proviseurs qui décident de la longueur des jupes des collégiennes et des lycéennes. Est-ce que c'est pareil en Corée?
Ça, je sais pas, j'ai pas trouvé. À mon époque, ça se faisait, mais ça se fait plus maintenant. Parce que les élèves
révoltent.
Ouais.
Alors, en Corée, selon le règlement du lycée, les coupes de cheveux sont aussi contrôlées. Alors souvent, c'est mi-long pour les filles et court pour les garçons.
Ça aussi, ça n'existe presque plus. Hein.
Ouais, ça a beaucoup évolué à une époque. C'est vrai que ça se mesurait en centimètres. Donc en centimètres bruts pour les garçons, genre un centimètre ou un demi-centimètre. Et pour les filles, c'était la même mesure, mais à partir du lobe de l'oreille. Mais ça a changé maintenant parce qu'il y a eu il a été dit que ça portait atteinte aux droits de l'homme. De réglementer la longueur des cheveux pour ses élèves. Et maintenant, c'est un peu plus souple, mais souvent, les filles notamment, doivent avoir les cheveux attachés derrière.
D'accord. Mais parce qu'il y a quelques mois, il y avait des lycéens qui avaient manifesté pour pouvoir être autorisés à avoir les cheveux longs, en fait. Vraiment longs.
Pour les garçons, c'est encore un peu difficile d'avoir les cheveux longs, quand même.
Oui, malheureusement, sans résultat.
Oui, sans résultat. Donc, ces années d'études dans le secondaire ne sont pas faites pour que l'adolescent puisse se découvrir et s'affirmer, comme c'est le cas en France, mais ces années sont faites pour préparer l'avenir et l'entrée à l'université. Donc, ce sont vraiment des années sacrifiées, en fait, aux études. Et si on se penche sur les emplois du temps, rien, en fait, n'est vraiment choquant. On s'aperçoit que les élèves commencent à 8h30 et finissent leur cours à 15h ou 16h, soit 2h plus tôt qu'en France, qui finissent à 18h. Au niveau des contenus des cours, il peut y avoir des cours de calligraphie et de gestion ménagère, mais sinon les enseignements sont identiques à ceux que l'on connaît en France. Il n'y a pas vraiment de changement. Il faut noter que l'anglais est la langue obligatoire, la langue vivante 1, et que l'on enseigne, qui est enseignée en fait à partir de la dernière année du primaire. Il faut juste savoir que c'était le français jusqu'en 2000. Il y aurait une émission sur la place du français en Corée du Sud.
Très bonne idée.
Je crois pas que ce soit le français la première langue. En 2000, je ne crois pas. Non.
C'était obligatoire au baccalauréat. Juste pour le passage.
Je ne crois pas. Je me renseignerai.
Je te ferai ça. Je te ferai une jolie émission là-dessus. Donc, les secondes langues, en fait, ne sont introduites qu'au lycée. Donc, le choix d'une seconde langue, une particularité coréenne, ça ne dépend pas de l'élève, mais de l'établissement qu'il fréquente. Et c'est le proviseur, en fait, qui choisit la seconde langue.
C'est vrai, hein, pour mon lycée, c'était l'allemand et le japonais.
D'accord. Mmh. Mais en fait, donc, pour l'instant, rien de vraiment différent. Un bac à passer, une entrée à l'université. Pourquoi alors est-ce que les adolescents coréens sont-ils plus stressés, fatigués que les nôtres? Question. Le problème du système éducatif sud-coréen, c'est qu'il n'est pas performant. Quoi? Comment ça, me direz-vous? Vous pouvez peut-être même me dire, mais pourtant, d'après les études de l'OCDE, le système éducatif sud-coréen est parmi les meilleurs au monde, puisqu'il produit des élèves performants. C'est vrai que la Corée du Sud est numéro 1 au niveau de l'éducation, au même titre que la Finlande ou que le Japon.
Et j'ai entendu parler quand même que le président américain a sollicité la méthode éducative en Corée.
Ça fait bien rire beaucoup de gens ici, d'ailleurs.
Alors, pourquoi on va suivre le modèle coréen, c'est l'enfer?
Alors, en fait, derrière la faible performance de l'école se cache un système éducatif parallèle constitué d'instituts de formation privée appelés les Hagwon. Voilà. Que veut dire Hagwon en...
One, c'est un bâtiment ou bien c'est un institut. Hack, c'est les études. Donc le bâtiment où on fait des études.
D'accord. Et afin de donner aux enfants en fait une meilleure chance de réussite, les parents paient des cours de soutien scolaire qui ont lieu donc après les cours. Il en existe de toutes sortes. Des Hagwon, donc des Hagwon spécialisés en musique, en maths, en anglais, en gym, etc. Et la clientèle qui fréquente ces établissements est âgée de 5 ans jusqu'à 60 ans. Environ. Donc, en fait, les élèves coréens ont deux vies scolaires, l'officiel jusqu'à 15h et la vie au Hagwon jusqu'à parfois 23h.
Et, oui. Oh oui, 23h, oui, ça dépend aussi.
Ça dépend, ça a été plus tard, mais le gouvernement a légiféré parce que ça devenait, c'était plus possible d'avoir des élèves qui sortaient du Hagwon à 1h du matin pour ensuite reprendre les cours le lendemain à 8h, c'était...
Oui, c'est
des trous, donc il y a des lois maintenant qui interdisent les Hagwon de rester ouverts trop tard la nuit.
D'accord, d'autant plus que la circulation à Séoul étant ce qu'elle est, souvent on met une bonne heure pour rentrer chez soi.
C'est ça.
Donc si on finit à 22h, on n'est pas couché avant minuit pour des lycéens, ça peut être très très fatigant. Donc certains élèves fréquentent jusqu'à 8 Hagwon différents dans la semaine. Donc tous les soirs, ils vont dans un Hagwon différent, un Hagwon de maths, un Hagwon de français. Est-ce que tes enfants vont au Hagwon?
Non. Mais quand même, mes enfants ont fréquenté le Hagwon de Taekwondo, l'art martial coréen, et la peinture. Et c'est vrai, j'ai le piano aussi.
Mais ça, ce sont plus des activités extrascolaires. C'est vrai qu'en France aussi, on va faire ça le mercredi après-midi. C'est vrai que le Hagwon regroupe aussi les activités que nous, on connaît en France, comme les écoles de musique, etc.
Mais donc, j'avoue quand même que mon premier fils, qui est devenu maintenant étudiant, fait appel à un cours de maths avant d'entrer à l'université parce qu'il était très faible en maths. C'est pour quelques mois.
D'accord.
Ouais. C'était très efficace, hein.
Et en fait, dans ces classes de soutien, les élèves apprennent par cœur et en fait, ils acquièrent des automatismes pour répondre en fait au QCM, les questions à choix multiples du baccalauréat. QCM qui déterminera en fait tout leur avenir. Mais en fait, on peut se demander pourquoi est-ce que ces élèves fréquentent ces établissements, n'est-ce pas?
Il y a plusieurs réponses à ces questions, je pense.
Oui, alors déjà le système coréen qui n'est pas très performant. Souvent les classes sont surchargées et la pédagogie est dépassée. Il faut savoir en fait qu'il n'est pas rare en Corée de recycler des professeurs. Par exemple, on ferme une classe de français, pas de problème, le professeur de français sera recyclé et deviendra professeur de japonais. Et il aura en fait 2 mois pour se former au japonais.
J'en ai rencontré.
Je ne crois pas, hein.
Une
langue étrangère, ça apprend pas toujours au lendemain.
Justement,
c'est là est le problème.
Oui. Ok, aucun commentaire. Parce que je ne connais pas très bien ce milieu-là.
Et dans les Hagwon, en fait, il y a une personnalisation en fait, de la pédagogie. Il y a un véritable tête-à-tête, une prise en charge de l'élève. Alors que dans le système public, le professeur est face à 20 ou 30 élèves et il ne peut pas s'adapter en fait à tout le monde. C'est le même problème en France. Ensuite, les professeurs qui travaillent dans les Hagwon sont mieux formés et en fait, vu le coût financier, certainement mieux payés. Donc voilà. De plus, en fait, dans les Hagwon, si vous suivez par exemple des cours de mathématiques de seconde, vous aborderez très certainement aussi le programme de terminale, qui vous assure une avance certaine après en classe. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi est-ce que ces élèves fréquentent ces établissements? C'est qu'il y a aussi l'esprit de compétition. On veut mettre en fait toutes les chances de son côté afin d'être pris dans une des meilleures universités du pays. Tous les élèves coréens visent en fait la sky.
Le ciel?
Presque. Yann,
Sky. Eh bien, Sky, c'est pour l'Université nationale Séoul, l'Université Koryo et enfin l'université Yonsei, SKY.
Voilà,
c'est initial.
Ouais. Alors en fait, outre le prestige de ces universités, les relations qui se nouent en fait sur le campus sont un atout irremplaçable pour la réussite d'une carrière professionnelle. Ainsi, quand une entreprise recrute, elle donne généralement la priorité aux candidats venant de la même faculté que les dirigeants. Les zagouans sont devenus donc un passage obligé pour la réussite des élèves, mais un passage qui coûte très cher. En moyenne, les zagouans représentent une dépense de 600 euros par mois et par élève pour un foyer coréen.
Un million.
Donc, un million ?
Oui.
Bon, il ne faut pas généraliser quand même. Mais bon,
c'est une statistique très fiable.
C'est une moyenne.
D'accord.
Finalement, en fait, avec ce système parallèle, en fait, c'est créer un cercle vicieux. Parce que les professeurs, puisqu'ils ne servent plus vraiment à transmettre un savoir, sont démotivés et ne désirent pas vraiment se former à de nouvelles pratiques d'enseignement. Les élèves sont fatigués, ils ont étudié jusqu'à 23 heures et donc après ils dorment en classe et ils n'apprennent pas. Et puis comme les élèves doivent être les meilleurs pour pouvoir entrer à l'université et ne pas rater leur avenir, ils sont obligés de prendre des cours de soutien et les parents payent tout. En faisant naturellement sentir à leur adolescent que jusqu'à leur entrée à l'université, il va falloir oublier les heures de sommeil et tous les loisirs qu'ils pourraient avoir.
C'est vrai.
Voilà.
Dur d'être élève en Corée du Sud.
Oui, c'est très.
Et aussi dur d'être des parents pour ses élèves.
Donc en résumé, c'est pas très efficace et ça coûte très cher, donc une productivité quand même pas très très élevée. Et puis, ben, c'est un petit peu difficile aussi pour les élèves qui vivent quand même un enfer. Et puis, il faut pas oublier que s'il y a une compétition, c'est parce que le baccalauréat coréen n'est pas à proprement parler un examen, mais c'est un concours.
C'est un concours d'entrée. Ouais.
Oui, c'est un concours et ça change beaucoup de choses dans toute la société coréenne.
La semaine prochaine, je vous parlerai d'un autre sujet, puis je reprendrai un petit peu le système éducatif la semaine d'après en vous parlant du baccalauréat et de la faculté. Comme ça, on va faire une petite pause
Merci.
Voilà, bonne journée, bonne semaine.
Bonne semaine.
Au revoir.
Retrouvez toute l'actualité de toute la Corée sur notre site internet http://www.korea.org.